Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Néron, fils de sa postérité.
Et ton nom paraîtra dans la race future. Au plus cruel tyran, une cruelle injure.
En compagnie de Socrate, Alexandre, César, c'est l'un des personnages les plus présents de l'Antiquité gréco-romaine, et pas seulement parce qu'il a été empereur. Il a été vu autant en acteur qu'en souverain, et en effet, il a survécu grâce à l'art, à la poésie, au théâtre. On entendait dans Britannicus Marguerite Jamois. Néron, c'est une figure inépuisable dans laquelle chaque grand moment intellectuel de l'Occident est allé chercher de quoi justifier ses choix. Il a aussi bien symbolisé l'antéchrist, avec lequel aucun compromis n'est possible, que le despote éclairé qui cherche juste à maintenir son autorité avec des moyens rationnels. Cependant, la représentation modelée dès le 1er siècle et qui revient de manière récurrente, c'est celle du tyran. On se souvient de Chateaubriand. Lorsque tout tremble devant les tyrans et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît. Chargé de la vengeance des peuples, c'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Combien de vocations d'historiens ne sont-elles pas nées de cette phrase presque trop belle qui renvoie à un Tacite idéalisé dont les annales, en même temps qu'elles vouaient l'empereur assassin aux gémonies, départageaient le bien et le mal. Le moment est venu peut-être d'avouer que maintenant l'histoire de Néron nous intéresse moins pour ses intersections avec la morale que pour les rapports qu'elle entretient avec la fiction.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Donatien Gros, bonjour.
Bonjour.
Qui publie chez Gallimard Néron en Occident. Vous êtes un drôle d'oiseau, alors je pourrais faire défiler vos titres, normal supérieur, docteur ès lettres, etc. Vous êtes un enfant numismate à l'origine.
Tout à fait.
Vous achetez des médailles à 10 ans, 15 ans?
12-13. Enfin, j'ai hérité de ma grand-mère qui m'avait donné un ensemble de pièces de monnaie dans laquelle il y avait une monnaie romaine que j'ai essayé de lire. Et je suis allé voir mon professeur de latin en essayant de lui demander comment on arrivait à lire. J'ai pas réussi. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des numismates qui m'ont un peu guidé. Et ça m'a mené à écrire sur les monnaies et à un moment à faire un article scientifique sur Néron et Auguste. Et de là est parti.
Et à quel âge?
Écoutez, l'article, j'ai dû l'écrire quand j'avais 18 ans, 19 ans, et après ça a été publié quand j'en avais 20, 21.
Tout à l'heure, on va parler de la numismatique quand vous nous préciserez quels ont été les rapports entre Agrippine, sa mère, Néron, et Claude, l'empereur qui a adopté Néron en épousant Agrippine. Pardonnez la citation qu'on va faire d'une série télé de la BBC, c'est la seule fois, hein, je vous promets, de Donatien Gros, signé Herbert Ruiz. Moi, Claude, empereur. L'empereur est bègue.
Cela te plairait de te marier avec moi?
Oh, oncle Claude, si cela était vrai, je serais la femme la plus comblée du monde.
Oui, je me doutais un peu de ta réponse.
Où veux-tu en venir?
Eh bien, aussi belle que tu puisses être, pour moi, ton corps présente moins d'intérêt que ton esprit. Je t'épouse pour ton intelligence, ma chérie, pas pour ton cœur, que je te soupçonne de ne pas avoir.
Mais je ne serai jamais une potiche, je tiens à te le dire. Si tu m'offres le pouvoir, je l'utiliserai.
Et pour quelle autre raison penses-tu que je te l'offre?
Alors?
Nous devons bien nous marier. Mais pourquoi? Il ne veut pas que je partage son lit. Il ne m'aime même pas. Il dit qu'il me veut pour l'aider à gouverner.
C'est d'autant mieux.
Mais qu'a-t-il dit exactement quand tu as parlé de moi?
Que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour, ou une phrase dans ce sens-là. Avec un peu de chance, il ne résistera pas longtemps au mariage.
Non, il faut absolument le garder en vie jusqu'au jour où mon fils sera apte à gouverner.
Alors, à voir vos dénégations, on sent que ce n'est pas une bonne source utilisable. Parce que, comme beaucoup de réflexions contemporaines, elle cherche à présenter les souverains comme étant des personnes, alors qu'ils incarnent une fonction.
Tout à fait. Moi, Claude, c'est un contresens absolu. Parce que Claude ne peut pas être moi. Claude est l'Empire. Claude est empereur. Il est Auguste, donc il est l'Empire. Et le problème, c'est que quand on prend cette situation, c'est une sorte de psychologisation d'une situation qui est une situation politique. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, quand on reprend ces débuts de cette genèse de la figure de Néron par Claude et Agrippine, c'est qu'en fait, Claude avait été trompé par son épouse, qui ne l'avait d'ailleurs pas trompé pour des raisons personnelles, mais qui l'avait trompé avec quelqu'un qui était du sang d'Auguste, donc du sang du fondateur, donc pour des raisons dynastiques, donc qui remettait en cause sa légitimité du pouvoir. Et donc, que pouvait-il faire, sinon trouver mieux que celle qu'il avait, c'est-à-dire l'arrière-petite-fille d'Auguste.
Agrippina à Augusta. Revenons aux bonnes sources. La numismatique, par exemple. Alors, on voit apparaître, au début du règne de Néron, il a 17 ans, des monnaies où figurent les deux profils avec cette référence à Agrippina Augusta, héritière d'Auguste, et ce n'est pas une formule qu'on utilise comme ça pour tout le monde.
Et bien sûr que non, parce que l'Augusta, la première Augusta considérée comme telle, même si ce n'était pas son nom, c'est Livie, c'est l'épouse d'Auguste qui a organisé la première transmission du pouvoir à Tibère, qui était son fils ensuite adopté par Auguste. Donc vous voyez bien que ce qui est là en jeu, avec le nom, le nomen Augustum, le nom Auguste donné à une femme, c'est la transmission par cette femme de ce nom Auguste, c'est-à-dire la transmission de la dynastie.
Et d'un idéal augustéen qu'on va retrouver aussi chanté dans une source écrite, cette fois-ci contemporaine, Sénèque, qui conseille, après avoir formé Néron. Et alors aussi bien sur les monnaies que dans les textes de Sénèque, on voit exalter l'équilibre entre les hommes, les dieux, la nature, que pourrait représenter le premier Néron augustéen.
Tout à fait, parce qu'on parle de Renaissance augustéenne, mais la Renaissance néronienne est tout aussi juste. Et on a énormément de textes, notamment de poésie, qui nous sont transmis de l'époque néronienne. La Farsale, ce qu'on considère comme un autre texte d'époque néronienne, les Bucoliques d'Einsiedeln. Or, qui avait écrit des Bucoliques avant Einsiedeln et après Théocrite? C'était Virgile, le grand poète augustéen. Donc on voit bien comment tout ce chant du Nouveau Monde, c'est à la fois du monde parfait, c'est à la fois le résultat d'une crainte, parce que Rome est un lieu, est un espace instable, et en même temps, l'aspiration que le gouvernant incarne ce nouvel ordre.
Alors là, on est dans les sources de l'époque contemporaine de Néron. On pourrait aussi évoquer les peintures de la Domus Aurea, où on voit cette même idée d'harmonie essayer de s'imposer. Mais les auteurs qu'on consulte le plus souvent, je parlais de Tacite en citant Chateaubriand tout à l'heure dans l'exergue de l'émission, ils sont intervenus après la mort de Néron.
Tout à fait.
La mort de Néron, c'est plus que la mort de Néron.
C'est beaucoup, beaucoup plus que la mort de Néron. Néron meurt en 68, il est le dernier empereur du sang d'Auguste. Dernier empereur du sang du fondateur. Suit son règne, suit sa mort, son suicide, dans la villa de Phaon. Comme suit ce suicide quatre empereurs, le règne de quatre empereurs en une année, une guerre civile, le Capitole est pris d'assaut. Donc, évidemment que c'est une rupture considérable. Et en plus, après, le successeur qui arrive au pouvoir en 69, qui ouvre une nouvelle dynastie, Vespasien, la dynastie des Flaviens, cet empereur n'est pas un aristocrate, n'est pas quelqu'un du sang d'Auguste, il n'est pas quelqu'un des grandes familles romaines. Donc c'est une rupture totale. Et on peut comprendre que cette nouvelle dynastie, qui s'est construite sur les cendres de la villa où est mort Néron, ait voulu créer un message qui soit le contraire exact du discours qui avait été tenu avant.
Donc pour Tacite, Néron, c'est quelqu'un qui rompt avec l'harmonie, qui mérite le sort qui a été réservé à la dynastie qui l'achève. Alors il faut prendre au sérieux, prenons un exemple, 55, le meurtre de Britannicus, le frère. Il faut prendre au sérieux Tacite quand il raconte ça?
Alors il y a trois problèmes.
Trois.
Le premier problème, c'est la vérité de ce qui s'est passé. Britannicus pouvait être quelqu'un de malade. Après tout, il pouvait être un enfant fragile. Ça arrivait souvent à Rome. Les gens mourraient à 40 ans à Rome, en général. Premier problème. Deuxième problème. Le récit tacitéen lui-même. Tacite est fasciné par le théâtre. Tout le monde a montré, et ça a été très bien montré, que Tacite reprenait l'héritage poétique, et pas philosophique, de Sénèque, le monstre. Donc, c'est une scène et ce plaisir du théâtre est-il réaliste? Et il y a même eu un article scientifique qui a montré que ce que nous savons de l'usage des poisons en Rome rend la scène absolument impossible.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poison qui permette, au moins à dose modérée, de provoquer une mort quasi immédiate.
C'est ça. Ouais. Et le troisième élément, c'est que si nous acceptons que, oui, il a été assassiné, Après tout, c'est des questions politiques. De la même manière que Claude avait choisi d'aller vers le sang d'Auguste, Britannicus était le fils de Claude.
Mais il y a un autre fait qui, lui, est incontestable. Donatien Gros, il y a bien eu un incendie énorme à Rome en 64. Mais quid vraiment des circonstances de l'incendie et surtout de ces lendemains? Voici le récit tacitéen, toujours classique. Les annales de Tacite sont lues par Henri Virlegeux.
Aucun moyen humain, aucune largesse du prince, aucun rite destiné à apaiser les dieux ne pouvait éloigner la rumeur infamante selon laquelle l'incendie avait été allumé sur ordre. Aussi, pour étouffer ce bruit, Néron supposa des accusés et frappa des peines les plus raffinées les gens détestés à cause de leurs mœurs criminelles que la foule appelait chrétiens. Celui qui est à l'origine de ce nom est Christ, condamné à mort par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée sur le moment, cette exécrable superstition faisait sa réapparition non seulement en Judée, mais aussi à Rome. Donc on arrêta d'abord ceux qui avouaient. Puis, sur leur dénonciation, une foule immense qui fut condamnée, moins pour crime d'incendie que pour sa haine du genre humain. Leur exécution fut transformée en jeu. On les revêtit de peaux de bêtes, et ils périrent sous la morsure des chiens, ou bien on y mit le feu, pour que lorsque le jour baissait, ils brûlent et servent d'éclairage nocturne. Néron avait prêté ses jardins pour ce spectacle, et il donnait des jeux de cirque en habits d'aurige, mêlés à la plèbe ou debout sur un char.
Mais la plèbe ou debout sur un char, on ne sait jamais très bien où est Néron. C'est une des questions sur lesquelles vous insistez, Donatien Gros. Puis vous montrez aussi qu'à partir de cette base tacitéenne, dénonciation de la tyrannie, la littérature chrétienne va se développer jusqu'à faire incarner l'antéchrist à Néron. Littérature chrétienne, mais aussi littérature juive, parce que à peu près au même moment, persécution après la guerre à Jérusalem.
Tout à fait, puisque le peuple de Judée s'était soulevé contre le pouvoir impérial, et c'est Néron qu'on parle de la destruction du temple par Titus, on parle de Vespasien, ça ensuite apparaîtra dans Bérénice, mais la personne qui a envoyé les troupes, c'est Néron. Et donc ça a donné lieu à toute une tradition qui est présente dans le Gittin, qui est présente aussi dans les oracles sibyllins, qui est un texte de langue grecque, qui met en scène un empereur qui revient d'Orient. Mais je pense qu'il y a aussi une chose importante à travers ces traditions, c'est que ces traditions sont un fond oriental, si vous voulez. Fond des religions mystérieuses, orientales, qui pour les Romains étaient complètement étrangères. Donc c'est ce Néron-là, parce qu'il y a aussi ce mythe d'un Néron qui va en Orient et qui en revient comme... Ça fait un peu penser au Messie, d'ailleurs, l'homme qui revient.
Stratification progressive qui vont étouffer peu à peu, d'ailleurs, les textes latins d'origine, sous le poids des apocryphes, des récits de plus en plus légendaires. Vous parlez, par exemple, de la légende dorée. Alors là, maintenant, on est déjà au XIIIe siècle, et voilà qu'on y lit cette chose inouïe.
Vous êtes gonflé, vous êtes ballonné, comme si vous attendiez un enfant.
Pardon ?
On dirait que vous êtes enceinte de 4 mois.
Alors, il n'y a rien de grave?
Ce n'est pas grave, certes, mais c'est déroutant chez un homme.
Je suis enceinte.
Oh, merde. Je savais pas que ça pouvait arriver aux hommes.
Vous attendez un enfant. Quel effet cela vous fait-il?
Eh bien, je crois que toutes les femmes qui attendent un enfant me comprendront.
Vous vous sentez un autre homme?
Non, non. C'est une chose naturelle, je veux dire, c'est une chose naturelle.
Eh bien, avant Mastroianni, on apprend ça en vous lisant. Avant le film « L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune » de Jacques Demy, 1973, il y a eu au XIIIe siècle la légende dorée qui présente un Néron enceint.
Tout à fait.
Et d'un drôle d'enfant.
Une grenouille. Qui naît au milieu des parce qu'évidemment, comme c'est un homme, je peux vous laisser imaginer par où il va accoucher, donc et la façon dont l'accouchement se passe. Et non, mais ce qui est intéressant dans ce texte, qui d'ailleurs se lie à toute une tradition religieuse qui est tradition négative, qui est née de la persécution, c'est qu'on voit bien que Néron est la chose la plus éloignée de ce qui est acceptable. Donc qu'est-ce qui est le plus éloigné de l'acceptable? Un homme qui a un enfant. Quand un homme a un enfant, En plus, l'homosexualité n'était pas très appréciée au XIIIe siècle. Mais quand en plus un homme a un enfant, il ne va pas avoir un enfant humain, il va avoir un enfant qui va être une grenouille. Et donc c'est assez intéressant de voir comment au XIVe siècle, XIIIe puis XIVe siècle, se cristallise cette tradition, notamment avec un autre texte qui est incroyable, qui s'appelle Néron l'Arabe, dans lequel Néron, Mahomet et Satan sont la même figure. Donc c'est cette cristallisation-là qui est passionnante.
Un personnage monstrueux d'inversion.
Néron, qui je m'appelle comme l'empereur, ça repousse les pucelles, ça leur fait peur. Mais que ça me plaise ou non, c'est bien moi, c'est bien mon nom, Néron, au sacre nom de nom. C'est un nom qui pèse lourd comme une pierre, ça vous joue des drôles de tours, rien à faire. Mes parents, paix à leur âme, n'y ont vu que feu et flamme, Néron, au sacre nom de nom. Mais comme ça ne suffisait pas loin de là, j'ai pour rigoler un brin à la fin. Mis le feu au panthéon, c'était là ma vocation, Néron, au sacre nom de nom. Si un jour j'ai des enfants, des chérubins, je leur donnerai des noms de bons chrétiens. Mais je serai pendu à vous, je n'aurai pas l'occasion, Néron, au sacre nom de nom.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Néron en Occident, c'est un livre de Donatien Gros, édition Gallimard, où on voit, en écoutant les débuts de ce chanteur italien assez connu Benito Merlino, qu'on est passé maintenant sur le versant profane. On était dans la figure antichrétienne. Nous voici de nouveau retrouvant une figure tyrannique, mais une figure tyrannique qui va se déliter, se délier. Alors, on pourrait parler de ce qui s'est passé au XIVe siècle, mais déblayons. Vous dites la Renaissance, qui permet d'ailleurs de redécouvrir Tacite, qu'on avait un peu oublié, il était recouvert. C'est on bien intéressant pour cette naissance d'une tradition profane néronienne.
Tout à fait, Néron, Tacite qu'on avait perdu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les textes. Et, mais oui, parce que, et c'est là peut-être que s'articule le début du décalage de notre Néron moderne, de cette quête passionnée de la modernité pour une personne dans Néron. Parce que la question des structures politiques se pose à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, tyrannie, oligarchie, monarchie. Et à ce moment-là, Néron, et le Néron de Tacite, va être le modèle de celui qui outrepasse, le modèle de celui qui, auquel il faut résister. Et la conjuration des aristocrates qui essayaient de se défendre contre Néron, Cornutus ou ses cercles de philosophes, devient un modèle pour tous ces penseurs, notamment Machiavel, mais aussi Juste Lips, et toute la pensée politique du XVIe siècle qui se nourrit du fameux constat que Tacite a dans le livre 13 des Annales, « Insociabile regnum », le pouvoir ne se partage pas.
Alors les conjurés, parmi les conjurés, on va retrouver la figure de Sénèque, qui, avec ses petits camarades, essaye de contrecarrer le pouvoir qui déborde de Néron. Cette figure de Sénèque, la voici au XVIIe siècle, dans une pièce bien connue qui s'appelle « La mort de Sénèque », enfin je dis bien connue, elle est de Tristan l'Ermite, elle date de 1645, Molière y a joué. C'est ce que vous écrivez. Hein. Et là on va entendre le grand Hubert Gignoux dans le rôle de Sénèque. C'est une mise en scène de 1983 de Jean-Marie Villégier à la Comédie Française.
Eh bien, le vœu César, dis-le-nous en dimanche.
Que Sénèque s'apprête à mourir, promptement.
Oh, doux commandement, aux faveurs agréables, nouvelles désirées autant que désirables. Il nous oblige fort de nous traiter ainsi. S'il veut que nous mourions, nous le voulons aussi. Il sait donner à tout, et le prix et l'estime. Il ne m'ordonne rien qui ne soit légitime.
Il te laisse le choix, pour certaines raisons, de la flamme, de l'eau, du fer ou du poison. Prends lequel tu voudras. Choisis.
On est tout à fait dans la demi-teinte, parce qu'il est dans le raisonnable, Sénèque. Il mène une conjuration raisonnable, il trouve raisonnable que Néron utilise des moyens rationnels pour se défendre dans son autorité menacée.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question...
Au moins trois.
On peut en trouver. La première, c'est la figure de Sénèque, qui elle-même a sa propre généalogie. C'est-à-dire que à la figure de Néron viennent s'accrocher d'autres figures. C'est-à-dire que Sénèque a une généalogie dans sa fameuse correspondance avec Paul, et il a eu sa propre tradition. Et Sénèque est une personne qui a une réception très compliquée, parce que c'était l'un des hommes les plus riches de l'Empire, et en même temps, c'était un philosophe qui disait qu'il fallait être comme les esclaves. Alors, la figure de Sénèque a elle-même sa propre réception. Le deuxième élément, c'est effectivement cette idée qui commence à se développer à partir notamment de l'éloge de Néron que fait Cardan au début des années 1560, où il se pose la question, peut-être qu'en fait, Tacite avait tort. Peut-être que Tacite est un prêtre des idoles, comme il le dit. Et peut-être qu'en fait, Néron est quelqu'un qui réagit comme un homme politique.
Ce Cardan, c'est un savant italien du XVIe siècle.
Ah, Cardan, c'est l'incarnation de l'homme de la Renaissance. Médecin, astrologue, penseur. Il incarne l'homme de la Renaissance avec son côté, comme dirait Socrate, atopos, sans lieu. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, le XVIIe siècle est un moment particulièrement passionnant parce qu'on a le Néron tyrannique politique, le Néron monstrueux et le début d'un Néron scientifique qui apparaît à la fin du siècle avec le Nantillimon, le grand prêtre janséniste, qui a donné lieu au début d'historiographie néronienne.
Vous citez aussi, c'est plus surprenant, Spinoza.
Bien sûr, sur le mal.
Mesuré sur Néron.
C'est la question du mal, la question du criminel et quelle est la motivation du criminel et la façon dont le criminel motive. Est-ce que le crime est pour le crime lui-même, ce qui en fait un crime, ou est-ce qu'il est justifié? Et dans ce cas-là, il entre dans un ordre différent. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces ordres de pensée, qui sont des ordres marginaux, Spinoza était refusé par la synagogue, Cardan était une sorte de figure monstrueuse, tous ces genres d'ordres de pensée marginaux, en fait, sont au plus proche de ce qui était la figure impériale, c'est-à-dire une figure en son temps, une figure qui obéissait à ses propres normes.
Mais à ceux qui croiraient, vous écoutant pieusement, Donatien Gros, que Néron est surtout un objet de réflexion philosophique sur l'exercice de la politique et le mal, il faut rappeler qu'il devient de plus en plus, dans la tradition profane, un objet esthétique, voire un objet de divertissement. Je me permets de citer un excellent auteur qui n'est pas dans votre livre, Félicien Marceau. Vous avez oublié Félicien Marceau ? L'étouffe chrétien.
L'étouffe chrétien.
C'est un objet de divertissement de boulevard intellectuel, Néron, pour lui.
Mais tout à fait. Mais vous savez, il y a deux choses. D'abord, j'ai choisi un peu, mais l'étouffe chrétien en 1960, la volonté de faire un Néron de 1960 avec Francis Blanche et Arletty, c'est en quelque sorte la fin, pas la fin, mais une certaine fin de l'histoire, c'est-à-dire ce moment. Mais en même temps, Félicien Marceau, et c'est ce que dit d'ailleurs dans le fameux passage qu'on va écouter, eh bien, il dit que
vous connaissez.
Que Francis Blanche, il discute avec Francis Blanche, et justement, ils veulent lire Tacite, précisément.
Ah bah ça, j'ai pas ce morceau-là, ça tombe bien. J'ai pas non plus Arletty dans le rôle d'Agrippine, elle est dans l'absence-présence.
Racine, quand il fait parler Néron en vers français, lui fait évidemment parler un langage que Néron n'a jamais parlé. Il ne parlait pas en vers, il ne parlait pas en français. Dès lors, je ne crois pas avoir pris une liberté plus grande en prêtant à Néron des répliques telles que « je t'en foutrais », etc., puisque au style Louis XIVe de Racine correspondrait de ma part le style canard enchaîné.
Mais, cher Félicien Marceau, je viens de dire la fin, là. Qu'est-ce que c'est que ce meurtre?
Ce meurtre.
Oui, mais moi, je ne veux pas tuer Arletty.
Mais ce n'est pas Arletty, c'est Agrippine.
Oui, mais Agrippine, c'est Arletty.
Mais non, mais dans la pièce, c'est Agrippine, votre mère.
Ben oui, mais même si c'est ma mère, je ne veux pas tuer ma mère. Qu'est-ce que c'est que ce meurtre?
Non, oh, une sensibilité d'oiseau.
Non, c'est impossible.
Mais les textes sont là, l'histoire. Je ne peux pas changer l'histoire, regardez, c'est fait.
Qu'est-ce que c'est?
Donc, Oxydi, là.
Suétone?
Suétone, parfaitement. Matremque, Oxydi, il a tué sa mère.
Matremque, Oxydi.
Ah, c'est imprimé.
C'est extraordinaire. On s'étonne de lire des choses pareilles. Ah non, vraiment, ça alors...
Mais elle vous tue, vous, ou c'est vous qui la tuez?
Ben écoutez, alors laissons ça comme ça, je la tuerai, mais en coulisses, hein?
Suétone, l'auteur de la vie des 12 Césars, le continuateur de Tacite, à certains égards, plus biographiquement. Enfin, je ne veux pas paraître trop savant, parce que hier, c'est drôle, Martin Cellier, qui a préparé cette émission, a devancé vos désirs, vous parliez justement de l'étouffe chrétien.
Tout à fait, je parlais de l'étouffe chrétien, parce que c'est un de mes amis très chers... A entendu, a beaucoup parlé avec Arletty de cette pièce. Et on réfléchissait à ce passage, parce qu'en fait, Francis Blanche Et je crois probablement un des meilleurs lecteurs de Néron, parce que quand il dit je veux pas tuer Arletty, je veux pas tuer Agrippine. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il comprend que sous Agrippine, il y a Arletty. Et donc, il comprend qu'en permanence, on est dans un effet de lecture. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, vous voyez, dans la discussion qu'il a avec Félicia Marceau lui dit c'est l'histoire. Mais en même temps, c'est le canard enchaîné. Donc, on ne sait pas si c'est l'histoire ou si c'est le canard enchaîné, ou si c'est aussi d'ailleurs Racine qui transparaît sous le canard enchaîné.
Mais alors, c'est quoi l'histoire ? Vous cherchez dans tous les sens. Hein. Vous avez fait une thèse, deux thèses, vous allez en faire une troisième. Mais enfin, c'est de l'histoire romaine. Vous avez écrit un livre sur Proust, où vous expliquez que Proust aurait pu être professeur d'histoire. Vous voyez, un peu comme Sainte-Beuve était professeur d'histoire littéraire, mais il a choisi la fiction. Alors, c'est quoi l'histoire par rapport à la fiction ? Le cas Néron pose cette question.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que j'en suis venu à penser que Néron, toutes ces figures de Néron sont comme un musée. Un musée dans lequel on rentre et dans lequel on voit toutes ces figures, toutes ces œuvres. Toutes ces œuvres, évidemment, sont des produits de l'homme. Et chaque fois qu'on se lie à elles, d'une manière ou d'une autre, eh bien, on se lie de soi-même vers elles. Alors, est-ce que ces œuvres existent en dehors de nous ? Évidemment, et on peut les connaître scientifiquement. Est-ce qu'on a un rapport à elles qui est intéressant ? Évidemment, et c'est aussi intéressant. Donc, l'histoire, c'est deux choses. C'est d'abord... peut-être une philologie, une étude comme la numismatique l'est, une étude des choses dans leur époque, qui sont des représentations par définition, et aussi une étude de la façon dont ces représentations sont reprises.
Enfin, moi je pencherais pour dire qu'il y a un troisième point, comme vous le faites d'habitude, mais on n'a pas le temps de le développer. Tout de même, l'ordre de destruction des dernières infrastructures allemandes quand les Alliés approchent de Berlin, c'est l'ordre Néron, donné par Hitler depuis le bunker en mars 1945.
Mais vous voyez, c'est là où on reconnaît toute la capacité de réinvention d'une figure. Parce que quand le parallélisme entre Néron et Hitler, deux figures de la monstruosité, la figure occidentale, est complètement faussé. Parce qu'évidemment, il y a le rapport du pouvoir, cette figure du pouvoir qui s'enferme lui-même. Mais Néron n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans le pouvoir lui-même. C'est quelqu'un qui a eu, quand on regarde les faits, combien de personnes a-t-il tué Néron, si on lit Tacite ? Quelques dizaines de milliers. Quelques dizaines, pardon.
Bah, sauf si on compte...
Non, mais quelques dizaines de chrétiens. Les chrétiens,
chrétiens au-delà de Rome, mais d'après vous, la persécution n'a pas touché au-delà de Rome, et les juifs de Jérusalem.
Oui, non, mais les juifs de Jérusalem, c'était une révolte politique. Mais si on pense les gens qui sont tués sur l'ordre de l'empereur, les chrétiens, quelques dizaines, centaines de sénateurs. C'est rien. Enfin, c'est pas bien, mais c'est rien. Hitler, c'est un tout autre problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a eu ce fantasme de se dire bah, c'est la même chose, alors que pas du tout.
L'histoire, souvent, aime bien aller aux extrêmes de la fiction, là où est le fantasme, votre livre. Néron en Occident, aux éditions Gallimard, Donatien Gros. L'émission était réalisée par Stéphane Ronxin, avec à la technique Antoine Fortin. Alors Mathieu Vidard, de quoi nous parlez-vous dans La Tête au Carré ?
Les mammouths, et on aurait pu, figurez-vous Jean, apercevoir des mammouths depuis les pyramides d'Égypte 3700 ans avant Jésus-Christ. On va en discuter dans un instant avec mon invité.
Et nous demain, nous parlerons des frères Goncourt, qui n'ont seulement créé l'Académie Goncourt, mais ils ont mangé du mammouth, vous savez, enfin au moins de l'éléphant, du rhinocéros, du kangourou.
Ça doit être très très bon.
Toutes sortes d'animaux étranges, c'était pendant le siège de Paris en 1870. C'est peut-être un fantasme aussi.